la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour à tous, prêts à écouter le brief? Nous sommes le mercredi 8 mars, une journée un peu spéciale, et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles en particulier et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Tous les magasins de l'Aise vont donc passer sous franchise. C'est une décision de la direction qui assure que cela n'aura aucun impact sur l'emploi. Mais les syndicats en doutent, vous l'entendrez. Quels jeux de hasard sont parmi les plus dangereux? Une étude des opérateurs privés répond à la question et il y a une surprise du côté de la Loterie Nationale. Luminus finit l'année dernière dans le rouge et pourrait accumuler plus de 120 millions d'euros de pertes malgré une bonne performance industrielle, mais ça ne devrait être que conjoncturel. Le CEO espère un retour à l'équilibre cette année. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
La direction de Deleuze a donc frappé un grand coup hier et provoqué un mouvement de grève spontané dans la plupart de ses 128 magasins intégrés qui devraient continuer aujourd'hui. Il faut dire qu'elle a annoncé leur passage sous franchise sans donner de date et a annoncé être sûre de trouver des repreneurs pour tous. Il n'aura pas fallu une demi-heure à Xavier Piévaux, le CEO de Deleuze Belgique, pour exposer la nouvelle stratégie de la marque au Lyon. Exit les magasins détenus en propre, ils rejoindront les 636 affiliés Shop & Go, Proxy et AD existants. Les magasins en propre seront cédés soit à des franchisés établis, soit aux managers eux-mêmes, soit à des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans la distribution. Pour Xavier Piévaux, la franchise ne présente que des avantages pour assurer la croissance et le parc de magasins est très compétitif.
À travers l'affiliation de nos magasins, on cherche à rajouter à nos magasins à gestion propre des éléments nouveaux qui vont permettre leur croissance. Les éléments nouveaux, c'est l'entrepreneuriat avec, bien sûr, l'ancrage local. Nous avons beaucoup investi ces cinq dernières années dans nos magasins. Les futurs affiliés doivent respecter le contrat de travail tel qu'il existe aujourd'hui en application des règles sociales en Belgique.
La nouvelle n'a évidemment pas été bien accueillie par les syndicats, plutôt surpris par la manière et l'ampleur de l'annonce. Pour Myriam Delmé, la présidente du 7K, le passage sous franchise risque de se traduire par un bain de sang social.
On pouvait s'attendre à une restructuration, une diminution de coûts. Par contre, à avoir l'intégralité du parc de magasins qui passe vers la franchise, c'était quand même une décision inattendue. Le système de franchise va en fait, en pratique, éluder à l'avenir toute négociation collective des conditions de travail. Ça, c'est un des sujets qui est à craindre. Et d'autre part, il faut quand même bien se rendre compte que dans la franchise, on use ou on abuse notamment de contrats étudiants, de contrats précaires, et qu'en pratique, les conditions de travail au global sont à peu près de 25% moindres que dans la commission paritaire pour les magasins intégrés. Je prends comme exemple notamment le travail du dimanche qui est généralisé dans la franchise alors qu'il n'existe que peu pour les magasins intégrés.
Les avis sont donc plutôt partagés sur ce dossier évidemment. Luc Vendrisse, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Vous signez l'édito qui revient sur cette annonce. Que faut-il en penser finalement ?
Ce qui frappe surtout, évidemment, c'est le caractère spectaculaire de l'initiative prise par la direction, qui frappe clairement les imaginations. En fait, les syndicats ont clairement l'impression de revivre à plus grande échelle l'expérience récente d'Intermarché avec Mesdac. Ici, l'enseigne Deleuze s'en remet à un modèle finalement de plus en plus répandu en Europe, qui est celui de la franchise, qui présente évidemment l'avantage d'externaliser les coûts. Ce qui est sûr, c'est que il y aura des conséquences sociales parce que les salaires moyens sont sensiblement inférieurs, les plages de travail sont plus étendues, y compris le week-end. Mais d'un autre côté, le modèle de la franchise a fait ses preuves parce que on sait déjà, par exemple, que en termes de chiffre d'affaires par mètre carré, le modèle franchisé en général est plus performant que le modèle intégré.
Merci Luc de nous avoir éclairé sur ce sujet. À très bientôt. Un remède de cheval pour une profession qui est malade. Les médecins généralistes sont au centre des préoccupations du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek. Un groupe d'experts qu'il a missionné il y a plus de 6 mois vient de rendre ses conclusions sur la profession et ce n'est pas fameux. D'abord, les médecins sont vieillissants comme les patients, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. La relève est insuffisante. Enfin, la nouvelle génération veut concilier davantage vie familiale et vie professionnelle en réduisant ses activités, ce qui n'arrange rien pour les soins. Principale requête des généralistes, pouvoir faire leur métier, ni plus ni moins, et donc recevoir une aide administrative, infirmière et pourquoi pas bénéficier d'un soutien de psychologue. Ils pourraient ainsi faire leur travail plus sereinement, accueillir plus de patients et y consacrer plus de temps. L'idée du New Deal s'accompagnerait aussi d'une révision du mode de financement des médecins, avec la volonté de mieux équilibrer la rémunération des consultations et la gestion de dossiers des patients. La part des honoraires diminuerait, mais la part de la rémunération par patient augmenterait en fonction de la complexité des cas. C'est un juste retour des choses. Depuis des années, le gouvernement fédéral durcit les conditions d'exploitation des jeux de hasard pour lutter contre l'addiction provoquée chez les amateurs. Mais la loterie nationale échappe, elle, assez largement à ses limitations. Pourquoi ? Y a-t-il une raison objective ? Les opérateurs privés ont voulu juger par eux-mêmes de la dangerosité des jeux proposés. Ils ont donc mis un expert indépendant sur le coup. Résultat de son étude qui vient d'être dévoilé, aucun jeu de hasard n'est sans risque et les jeux en ligne sont plus addictifs que les jeux sur papier en raison de leur facilité d'accès en particulier. Au final, le rapport d'expert est plutôt dur envers la loterie nationale. C'est ce que nous explique Michel Lowers, notre spécialiste en la matière à la rédaction.
Les résultats de l'étude sont assez étonnants. Parce que si le jeu le plus à risque est, lui, sans surprise, la machine à sous, se classent tout de suite après les jeux instantanés de type Wouhou de la Loterie Nationale. Autrement dit, ces jeux instantanés qui ressemblent à des casinos, mais qui sont déterminés par tirage, pour l'expert, est le troisième jeu le plus dangereux des 10 examinés. Par contre, et là je crois que tout le monde sera d'accord, il classe comme le moins dangereux des 10 jeux les jeux de loterie, effectivement.
La loterie qui s'entend peut-être le vent tourner revoit une partie de sa réglementation pour mieux protéger les joueurs.
Il y a quelques jours, la loterie a annoncé qu'elle abaissait les limites de mise de jeu quotidienne de ses joueurs de 300 à 200 euros. Or, c'est la limite obligatoire pour les opérateurs privés. Et donc, la loterie, d'initiative, a décidé de s'aligner sur cette limite-là. On peut se demander si elle n'a pas pris cette mesure précisément parce qu'elle sent bien que la contestation monte sur son régime d'exception.
And the winner is... J'ai toujours rêvé de prononcer ces mots-là lors d'une cérémonie de remise des prix à des acteurs, des actrices, des chanteurs ou encore des comédiens. Mais allons directement à l'essentiel, je ne reviendrai pas sur les Magritte ou les Césars, je veux vous parler maintenant des Fan Awards. Ah oui, là, nous ne sommes pas dans la même catégorie, mais ça reste glamour. L'Echo et The Tate récompensent chaque année les fonds qui dépassent les performances de leur indice de référence. Pour cette nouvelle édition, 3 grands vainqueurs ont été désignés. Ce sont tous des gestionnaires patrimoniaux anglo-saxons. Et le meilleur, toutes catégories confondues, c'est l'américain Goldman Sachs Asset Management qui remporte le Super Award. Bravo à lui. Et le supplément fonds pour tout savoir sur où placer votre argent paraît aujourd'hui avec l'Echo et sur notre site internet l'echo.be. Voici maintenant un changement de nom qui tente d'annoncer la couleur. Le fabricant de charcuterie et de plats préparés Turbic abandonne sa dénomination pour devenir What's Cooking, avec un point d'interrogation pour souligner le caractère ouvert sur l'extérieur et les nouveautés du groupe. What's Cooking deviendra la marque unique de tous les produits Turbic, sauf quelques plats préparés. Cette nouvelle identité fait partie de la stratégie du groupe pour 2030 qui se veut durable, axée sur la réduction des émissions de CO2 et la baisse de consommation en eau. Et puis le fabricant de charcuterie et de plats préparés va aussi investir au niveau commercial en mobilisant 150 millions d'euros sur différents projets dans les 5 années à venir. Il veut améliorer sa visibilité en Europe centrale où la vente de plats préparés est en forte augmentation. Il veut concevoir de nouveaux emballages avec moins de plastique et des lignes de production qui consomment moins de ressources. Mais Turbic What's Cooking veut surtout accélérer la mise en place de nouveaux produits à base végétale. D'ici 2030, tous les produits veggie et végétariens doivent représenter au moins 15% des ventes du groupe, qui sont à peine à 5% aujourd'hui. En septembre dernier, Grégoire d'Allemagne, le CEO de Luminus, prévoyait le pire pour le secteur de l'énergie en proie à de grandes difficultés de trésorerie. L'hiver est passé et l'homme semble plutôt rassuré à présent, mais pas question pour lui de se reposer sur ses lauriers. Il affirme que la situation aurait pu être beaucoup plus compliquée. Luminus d'ailleurs affiche un résultat net dans le rouge pour la deuxième année consécutive, malgré un chiffre d'affaires dépassant les 5 milliards d'euros. Maxime Van de Weyer, l'un de nos journalistes spécialistes en énergie, a analysé tous ces chiffres.
Alors, grave, c'est encore en fait un peu tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que le pire a été évité, mais pas du point de vue de la rentabilité, mais du point de vue de la liquidité. Ensuite, la perte, elle est essentiellement liée à des éléments non récurrents dans les activités de Luminus, c'est-à-dire la revue à la hausse des provisions nucléaires, une centrale à l'arrêt sur laquelle elle a un droit de tirage en France, donc qui n'a pas produit d'électricité, et aussi elle est liée à la taxe sur les surprofits qui a coûté environ 40 millions, qui coûtera environ 40 millions à Luminus. Donc ce sont des éléments qui ne devraient pas se poursuivre dans les années à venir.
Luminus espère donc un retour à l'équilibre dès cette année et un retour satisfaisant aux bénéfices en 2024-2025. Mais le fournisseur d'énergie aura affronté de gros chantiers devant lui qu'il devra assumer seul, sans le soutien de sa maison mère EDF, qui est dans une situation aussi inconfortable que lui.
Et donc les chantiers que Luminus a dans le viseur, il va devoir les réaliser seul, c'est-à-dire continuer à développer le renouvelable. L'entreprise espère dépasser le cap des 1000 MW installés d'ici 2027. Et alors la grande décision à prendre, ça va être celle du nucléaire. Que Luminus a des participations de 10% dans 4 réacteurs belges. Qu'est-ce qu'on fait de ces participations à l'aune de la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 ? Est-ce qu'on les garde ? Ça va arriver dans la suite des négociations entre Engie et l'État belge, parce que Luminus n'a pas encore participé à ces discussions.
Hey, I'm Kramer. Welcome to Mad Money. My mission is simple, to make you money. I'm here to level the playing field for all.
Jim Cramer, c'est une véritable star dans les milieux financiers à New York. Il anime entre autres l'émission Mad Money sur CNBC et fait un peu la pluie et le beau temps à travers ses conseils en investissement en bourse. Ainsi, on l'aime ou on n'aime pas. C'est pour surfer sur ce clivage que Matthew Tuttle, le CEO de Tuttle Capital Management, a lancé jeudi dernier deux trackers, deux fonds indiciels cotés, pour parier soit sur les valeurs recommandées par le présentateur, soit pour adopter la stratégie inverse. Matthew Tuttle avait déjà fait le coup avec une autre star de Wall Street, Cathie Wood, en pariant contre elle, mais sans atteindre les mêmes volumes en gestion que la papesse de la bourse. À noter quand même que Jim Cramer s'est constitué un portefeuille de 150 millions de dollars au fil du temps, mais on ne sait pas si c'est en jouant pour ou contre ses propres conseils. Bon, chez nous, nous vous donnons les clés pour bien investir et vous inspirer, mais ça s'arrête là. Nous n'irons pas créer de fonds pour valider d'éventuelles recommandations. Je vous propose en revanche de vous informer encore demain, et c'est déjà pas mal, je pense. Alors, le rendez-vous est pris. À demain.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière, pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.